Bonjour à tous, vous êtes bien sur Bac FM 106.1. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une interview sur l'articulation entre les mathématiques et la physique, sur la déraisonnable efficacité des mathématiques. Pour cela, je reçois Étienne Klein. Étienne Klein, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes diplômé de l'École centrale de Paris, vous avez un doctorat en philosophie des sciences, vous dirigez le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du CEA et vous faites de la vulgarisation scientifique à la radio et dans vos ouvrages. Est-ce que cette présentation vous convient ?
Moi, je la trouve parfaite.
Eh bien, super, on va pouvoir commencer à explorer cette question sur ce que Eugène Wigner, physicien hongrois naturalisé américain, appelait la déraisonnable efficacité des mathématiques en sciences naturelles. Nous allons plus nous concentrer donc sur la physique. Alors, commençons par peut-être définir la physique et la physique mathématique. On dit que la physique aristotélicienne était une physique en partie sans mathématiques. Pour prendre un exemple, elle prédit qu'un corps sur lequel on arrête d'exercer une force arrête de bouger. Alors, est-ce de la physique et comment on pourrait définir cette physique sans mathématiques ?
Alors, très très bonne question. Alors, je commencerai par faire une remarque sur l'adjectif que vous avez utilisé, qui est emprunté en effet à grand physicien du XXe siècle, qui s'appelait Eugène Wigner. On traduit le mot anglais oui. Unreasonable par déraisonnable. Et déraisonnable en anglais, plutôt en français, ça veut dire que c'est pas raisonnable. C'est comme si il était irrationnel d'utiliser les mathématiques en physique. Alors que ce qu'il voulait dire, lui, c'est qu'on ne connaît pas l'explication simple de l'efficacité des mathématiques en physique. Et donc le mot déraisonnable veut dire on ne connaît pas la raison qui fait que les mathématiques en physique sont si spectaculairement efficaces. Donc ça, c'était juste un petit point de sémantique pour montrer que parfois les traductions sont trompeuses. Alors la physique aristotélicienne, comme vous dites, en effet, elle s'appuie très peu sur les mathématiques. C'est plutôt une physique inductive, c'est-à-dire on regarde comment les choses se passent.
D'accord.
Et par induction, on essaie de déterminer les lois qui régissent ces phénomènes. Par exemple, on voit qu'il y a des corps très légers qui vont vers le haut, qui ne tombent pas, d'autres qui sont plus lourds qui tombent, et on a l'impression que le fait de tomber, la chute des corps, comme on l'appelle à l'époque, est une propriété intrinsèque des objets pesants, des objets graves, comme on disait. C'est-à-dire que la gravitation, pour Aristote, c'est pas du tout une force, comme on pense aujourd'hui,
oui.
C'est plutôt une propriété intrinsèque des corps, dont le destin est de tomber s'ils sont lourds et de ne pas tomber s'ils sont légers. Et parmi ceux qui sont lourds, il observe que ceux qui sont plus lourds tombent plus vite que ceux qui sont plus légers.
Oui.
Et il en déduit une loi qui est un peu mathématique parce qu'elle s'exprime sous la forme d'une proportionnalité.
C'est ça, oui.
Il dit que la vitesse de chute est proportionnelle à la masse des corps.
Mmh.
Et ça, c'est quand même une loi qui semble être conforme à l'observation. Mais si on y réfléchit un peu, on se rend compte qu'elle est en fait absurde. Parce que par exemple, si vous prenez un rocher qui a une masse égale à 100 000 fois la masse d'un caillou, vous ne verrez pas ce rocher tomber 100 000 fois plus vite que le caillou.
Oui.
Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans cette loi. Elle est mathématique, mais c'est un mathématisme quand même assez simple. Et la vraie rupture, elle se fera au XVIIe siècle.
D'accord.
Avec Galilée qui, lui, fait le pari que les mathématiques sont le langage de la nature. Lui, il pense évidemment à la seule géométrie. Hein.
Oui.
Il parle de cercles, de triangles, etc. Et il dit que si on n'apprend pas ce langage-là, donc le langage des mathématiques, il est impossible de comprendre un seul mot à la nature.
D'accord.
Il dit même qu'il est humainement impossible de comprendre un seul mot à la nature. Et ce qui est intéressant, c'est de discuter du sens de l'adverbe humainement qu'il utilise.
Effectivement.
Parce que lui-même ne le précise pas.
Mmh.
En fait, il y a deux options. Soit vous considérez que la nature est écrite vraiment dans le langage mathématique. C'est le langage naturel de la nature, si je veux dire. Et à ce moment-là, vous, qui êtes physicien, vous devez apprendre ce langage-là pour comprendre la nature, puisque ces lois naturelles s'expriment dans ce langage-là. Vous devez l'apprendre pour comprendre la nature.
Oui.
Ou bien, autre option, les mathématiques sont du côté de l'homme, et c'est nous qui avons fabriqué ce langage qui est un peu plus précis que le langage qu'on trouve dans nos phrases. Le langage mathématique est plus rigoureux. Et c'est ce langage rigoureux qu'on va utiliser pour comprendre la nature, et on va lui demander à elle, qui n'y comprend rien, de nous parler en langage mathématique.
Oui.
Elle va se forcer à parler le langage qui est le nôtre.
C'est Kant, il me semble, disait qu'on torturait la nature, c'est ça ?
Alors, en effet, une mesure pour Kant, c'est quasiment une torture, puisqu'elle ne sait pas ce que c'est qu'un nom, elle ne sait pas ce que c'est que tel ou tel concept mathématique. Et si on l'interroge pour lui dire, ben voilà, tu vas parler notre langage, c'est presque une torture. On la force à cracher quelque chose qui correspond à notre façon de dire et qui n'est pas la sienne.
D'accord. Donc, désormais, donc depuis Galilée, on utilise des mathématiques en physique. Donc, on décrit un phénomène, une loi, grâce aux mathématiques. Alors, ma question va être la suivante, c'est quel est le mode d'existence d'un objet mathématique ?
Ah, mais j'aimerais bien le savoir. En fait, il y a plusieurs écoles de pensée. D'ailleurs, les Grecs avaient déjà balisé le chemin. Par exemple, pour Pythagore, les mathématiques, c'est le monde. Le monde est mathématique.
Oui.
Donc, si... Ça répond un peu à l'avance à la question de Galilée. Si le monde est mathématique, eh bien, il est normal que les mathématiques permettent de décrire le monde. Mmh. C'est une sorte d'identité, finalement, entre les mathématiques et le monde. Une autre école de pensée, c'est celle de Platon, pour qui il y a en fait deux mondes. Il y a le monde des idées, en l'occurrence le monde des concepts, et puis il y a le monde empirique. Et l'explication que donnerait Platon de l'efficacité des mathématiques en physique, c'est qu'il y a une espèce de démiurge, comme il explique dans le Timée, l'un de ses livres, un démiurge qui fait la connexion entre le monde des idées, le monde des concepts mathématiques, si vous préférez, et le monde empirique qui obéit aux lois écrites en langage mathématique. Il y a deux mondes. Oui. Et ça pose la question de la connexion entre ces deux mondes, évidemment. Et puis, il y a les aristotéliciens, pour dire à eux, pour qui, finalement, les mathématiques, c'est simplement un moyen de faire des fuites, comme on dit, c'est-à-dire de trouver un moyen de décrire les régularités du réel sans qu'on puisse leur donner une essence particulière.
D'accord. Alors, pour continuer sur désormais plus le côté déraisonnable qu'on a désormais défini, que Wigner souligne, j'aimerais que vous me commentiez une citation de Maxwell qui traduit l'immense puissance de la mathématique, c'est « Les équations en savent plus que nous et même plus que ceux qui l'ont inventé ».
Oui, Paul Dirac est un du XXe siècle qui a prédit l'existence dans les matières, il disait à peu près la même chose. Il disait les équations sont plus intelligentes que nous. Et donc Maxwell, il est bien placé pour dire ce qu'il a dit, puisque, comme vous le savez, il a essayé de synthétiser dans un jeu de formules uniques tout ce qu'on avait compris de l'électricité, tout ce qu'on avait compris du magnétisme, et il a ajouté un petit terme dans son équation, qui était une équation différentielle, pour symétriser des choses qui lui apparaissaient anormalement asymétriques dans les premiers jeux d'équations qu'il avait écrits. Et en ajoutant ce petit terme, il se rend compte que des nouvelles solutions de son équation apparaissent et qu'on va appeler les ondes électromagnétiques. Et donc son équation, par sa beauté, par son esthétique, on pourrait dire, a permis de prédire l'existence d'une nouvelle sorte d'objet physique qu'on n'avait jamais détecté,
oui,
qui sont les ondes électromagnétiques. Et au XXe siècle, ça a été encore beaucoup plus spectaculaire. C'est-à-dire que en examinant les prédictions qu'on pouvait faire à partir d'équations ou de théories physiques, donc mathématiques, en les prenant au sérieux, on se rendait compte qu'elles permettaient de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques qu'on n'avait jamais vus. Et comme ces objets étaient prédits et caractérisés par les équations, on a pu se mettre à les chercher.
Oui.
Et dans beaucoup de cas, on les a trouvés. Par exemple, on a trouvé le trou noir qui était prédit par les équations d'Einstein. On a pu détecter il y a quelques années pour la première fois les ondes gravitationnelles qui avaient été prédites par Einstein. Dans le domaine de la physique quantique, on a pu prédire l'antimatière, c'est Dirac qui l'a fait. On a pu prédire le boson de Higgs, les bosons intermédiaires, les quarks, etc.
D'accord.
Toutes sortes de choses qu'on a pu détecter dans le réel empirique grâce au fait que des équations permettaient de supposer, même impliquaient l'existence de ces entités physiques. Et donc moi, je n'hésite pas à dire que les mathématiques, c'est davantage qu'un langage qui permettrait de dire de façon économique les régularités du réel. C'est vraiment un treuil ontologique, comme je dis souvent, c'est-à-dire un instrument qui permet de faire advenir dans le champ de la réalité des choses qu'on n'avait pas encore détectées.
D'accord. Mais finalement, c'est presque les cas où on voit la puissance des mathématiques, ces cas de prévention.
Oui, moi j'appelle ça une efficacité opératoire, mais elle est tellement puissante en effet qu'on peut l'appeler puissance, oui.
D'accord. Alors, nous allons désormais faire une petite pause musicale avant de continuer sur cette déraisonnable efficacité. Vous êtes un grand fan des Rolling Stones, vous décrivez ce groupe comme une alchimie quantique dans Philosophy Magazine. Alors, je vous laisse le choix de la musique des Stones que vous voulez diffuser.
Écoutez, je ne vais pas hésiter longtemps, je vais choisir Gimme Shelter parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Thank you.
De retour sur Bac FM 106.1, je reçois aujourd'hui Étienne Klein, philosophe des sciences et physicien, pour discuter de la déraisonnable efficacité des mathématiques et de son articulation avec la physique. Alors, une question qui va nous servir de transition pour exploiter d'autres phases de la mathématique, c'est une question plutôt simple que vous pouvez répondre en un seul mot, c'est les mathématiques ont-elles toujours des applications concrètes ?
Non, il y a toute une partie des mathématiques qui n'a pas d'application, qui est, disons, purement formelle, qui se déploie dans une sorte d'ailleurs par rapport au monde empirique. Ça ne veut pas dire que ça va être toujours comme ça. Par exemple, il y a des concepts mathématiques très éthérés qui, pendant très longtemps, n'ont pas eu d'application physique. Et puis, tout d'un coup, à l'occasion d'une révolution, une certaine partie de ces mathématiques se trouve réutilisée par les physiciens. Mmh. On peut penser, par exemple, aux géométries non euclidiennes qui ont été mises sur pied par des mathématiciens au 19e siècle, sans beaucoup d'applications envisageables, c'était juste un jeu formel. Et puis Einstein les a utilisés pour exprimer les lois de la gravitation dans le cadre d'une nouvelle théorie qui s'appelle la relativité générale. Bon, mais parfois il y a des mathématiques vraiment abstraites, on voit pas très bien comment on pourrait facilement les utiliser en physique. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir quelles sont les mathématiques que les physiciens utilisent. Est-ce que, on vient de le dire, c'est pas toutes les mathématiques, c'est une partie des mathématiques. Et est-ce que cette partie des mathématiques qu'utilisent les physiciens n'a pas des propriétés particulières qui permettraient d'expliquer cette efficacité?
D'accord.
Alors, il y a beaucoup de gens qui sont penchés là-dessus, notamment un philosophe belge qui s'appelle Dominique Lambert. Et il reprend des remarques qui avaient été faites par Paul Dirac. C'est toujours le même qu'on cite. Hein. Paul Dirac, c'est donc ce physicien qui avait prédit l'existence de l'antimatière. Mais en fait, les mathématiques qu'utilisent les physiciens s'appuient sur des cadres formels, disons des théories, qui permettent de construire beaucoup de quantités invariantes, de quantités qui ne changent pas quand on fait subir au système une certaine transformation.
D'accord.
Par exemple, si je prends une sphère, je la fais tourner, si c'est une sphère idéale, mathématique, eh bien sa forme, son équation, sa structure ne sera pas modifiée par la rotation que je lui ai fait dans l'espace. Il y a des symétries qui sont un peu plus abstraites, sur lesquelles je ne vais pas revenir. Et en fait, ce que dit Dominique Lambert, c'est que quand vous regardez un objet, par exemple un verre posé sur la table, vous reconnaissez qu'il s'agit d'un objet,
oui.
Alors même que vous n'en avez qu'une vue partielle.
Oui.
Et si vous étiez vraiment scrupuleux, avant de dire qu'il s'agit d'un verre, il faudrait que vous fassiez le tour du verre, que vous le regardiez sous tous les angles, pour vérifier que quel que soit l'angle sous lequel vous le regardez, il apparaît toujours comme un verre.
Il s'agit du mouton rasé d'un seul côté.
Exactement. Et donc c'est à partir d'un point de vue local que vous inférez une propriété globale ou générale. Et l'hypothèse qu'on peut formuler, c'est est-ce que ce mécanisme de la vision, c'est justement cette opération qui se passe dans notre cerveau et qui, à partir d'un point de vue partiel, fait jouer une loi générale, est-ce que finalement les mathématiques ne prolongeraient pas dans le domaine de l'invisible cette structure de la vision en s'appuyant sur des quantités invariantes qui lui permettraient de saisir des éléments de réalité? Par exemple, un électron, c'est pas quelque chose qu'on voit. Par contre, on peut le décrire par des entités mathématiques qui sont invariantes par rotation, de sorte que l'électron restera, quand il est décrit ainsi, toujours un électron, quel que soit le point de vue particulier sous lequel on le regarde. Et donc, c'est un peu compliqué ce que j'ai dit, mais c'est juste que peut-être, si les mathématiques sont capables de saisir des éléments de réalité dans le domaine de l'infiniment grand qu'on ne voit pas, ou de l'infiniment grand petit qu'on ne voit pas non plus, c'est peut-être parce qu'elles nous proposent des structures qui permettent à une autre échelle que l'échelle dans laquelle nous vivons, qu'on appelle l'échelle macroscopique, des capacités de saisie des éléments de réalité.
Alors, on va peut-être poser quelques contradictions à cette puissance en explorant ce qui est mathématisable ou non. Alors, est-ce qu'on peut tout mathématiser, premièrement, en physique? Est-ce que des lois ont été découvertes depuis que la physique mathématique est reine sans l'utilisation de mathématiques?
À ma connaissance, non. Toutes les lois peuvent s'exprimer souvent par des variations d'un paramètre en fonction d'un autre. Il y a forcément une courbe qui les relie, donc d'accord, elle peut être mathématisée. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement le fait de faire des fits, comme on disait tout à l'heure, des courbes qu'on peut mesurer grâce à une expérience, par exemple. C'est vraiment, quand on parle de mathématiques, c'est plutôt le cadre théorique, c'est les équations différentielles qui sont l'armature des théories physiques. Vous me posiez la question, est-ce que tout est mathématisable?
Oui.
En tout cas, en physique, toutes les théories sont mathématisées, en effet, mais il y a d'autres disciplines scientifiques que la psy, notamment la biologie.
Oui,
ça, c'est un peu plus complexe. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais même en physique, on a des problèmes par le fait que certaines lois sont contradictoires les unes avec les autres. Par exemple, la façon dont on décrit l'espace-temps en relativité générale, la théorie d'Einstein de la gravitation, n'est pas du tout la même que celle qu'on utilise pour décrire l'espace-temps en mécanique quantique. Et donc, c'est comme si la physique était schizophrène. Elle s'appuie sur deux théories mathématiques qui ne sont pas compatibles l'une avec l'autre. Oui. Et il y a des gens très nombreux qui essaient de construire des structures qui permettraient d'unifier, comme on dit, la physique quantique et la relativité générale. Et c'est toujours des mathématiques très compliquées. Et ça bouleverse, dans tous les cas, la représentation commune qu'on se fait de l'espace-temps.
D'accord. Vous l'avez dit, ma question finalement sur la biologie, actuellement on sait que c'est complexe pour les mathématiques, on utilise peu, même voire pas, de mathématiques en biologie. Alors est-ce que c'est parce que ces mathématiques on ne les comprend pas ou c'est parce qu'elles n'existent pas ?
Ah ben, c'est une bonne question, mais quand vous dites on n'utilise pas les mathématiques en biologie, bon, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même, quand on fait des statistiques, elles sont très utilisées en biologie, on fait d'une certaine façon des mathématiques.
Oui.
Ce qu'il y a, c'est que la biologie ne s'appuie pas sur des théories mathématisées. On parle plutôt de fonctions, la fonction d'une cellule, la fonction de tel ou tel organisme, alors que la physique s'appuie, on l'a dit, sur des équations différentielles. La grande question, alors il y a quand même des parties de la biologie, notamment la génétique des populations, où les gens utilisent des modèles mathématiques qui sont très très efficaces. Hein. Mais ça n'a pas la force prédictive dont vous parlez tout à l'heure qu'ont les mathématiques en physique. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que la biologie bénéficie par rapport à la physique d'une sorte d'extraterritorialité ? C'est-à-dire, est-ce que les lois de la vie, les lois de la biologie, si on existe, sont une émanation des lois physiques qui se déroulent quand les systèmes deviennent très complexes ?
Oui.
Ou bien est-ce que la vie elle se déploie autrement, avec des lois qui n'ont rien à voir avec les lois physiques ? Autrement dit, est-ce que les lois de la biologie sont déductibles des lois de la physico-chimie ? Ou est-ce qu'elles sont complètement autonomes, elles viennent s'ajouter en quelque sorte aux lois de la physique et de la biologie ? Ça, on n'est pas vraiment capable de répondre aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que les systèmes très complexes, qui sont ceux de la biologie par définition, ne sont pas aussi facilement théorisables que les systèmes physiques plus simples. Finalement, la physique, elle fonctionne bien, elle est très efficace, comme on l'a dit, parce qu'elle s'applique à des choses assez simples.
Oui. Alors, je vais désormais vous citer Gilles Châtelet. Vous savez sûrement déjà ce que je vais dire, c'est une citation que vous appréciez. « Comment se fait-il que la mathématique, qui dans les sciences est à la fois la bonne à tout faire et la reine des sciences, soit si utile à cette cuisinière malpropre et performante qu'est la physique ?» Alors, vous, en tant que physicien, est-ce que cela vous semble réel ? Est-ce que la mathématique est vraiment la science reine ? Et comment vous comprenez la cuisinière malpropre ?
Non, mais Gilles Châtelet, je l'ai connu, j'avais fait intervenir dans mes cours à Centrale, et malheureusement décédé il y a quelques années. Il était un peu provocateur. Ce qu'il veut dire, c'est que les mathématiques, en effet, on les considère comme la reine des sciences. Et même on dit que ce n'est pas une science, c'est une espèce de système qui est en amont de toutes les sciences, qui a un statut privilégié, qui n'a pas le souci de la réalité, qui n'a que le souci de la vérité. Et les mathématiques sont dans une sorte d'ailleurs, elles surplombent les sciences empiriques, qui leur donne un statut très particulier, puisque ce sont les seules sciences, entre guillemets, qui peuvent prétendre démontrer des résultats qui soient absolument vrais. Dès qu'un théorème a été démontré, il est vrai. Quoi. Il est vrai, il sera toujours vrai.
D'accord.
Il ne peut pas être contesté par la suite. Et par ailleurs, les mathématiques, ça sert à faire la cuisine, comme dit
Chassé,
c'est-à-dire à bidouiller, à faire des fits, des moyennes, des statistiques, etc. Donc elles ont ce double statut, un statut quasi sacré, quasi divin, et puis un autre statut qui est complètement dégradé. En fait, c'était une façon pour Gilles Châtelet de poser d'une façon assez provocatrice la question que je posais tout à l'heure, ou que vous me posiez tout à l'heure, c'est-à-dire les mathématiques sont dans un ailleurs, dans le monde des idées pures, tranquilles là-bas, et comment se fait-il que des lois mathématiques puissent décrire le monde empirique dans lequel nous sommes.
C'est ça.
Et donc, il posait finalement, avec ses mots à lui, la question de la connexion entre le monde mathématique et le monde physique.
Et donc, dans cette situation de Châtelet, on retrouve donc que la mathématique est la science reine, dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Est-ce une invention ? Est-ce qu'elle est dans la nature, comme Pythagore le dit. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est en quoi parfois la surmathématisation de la nature peut-elle être dangereuse ?
Ah, ben, je ne sais pas s'il y a une surmathématisation de la nature. Disons que le risque, j'entends dans votre question, c'est qu'on considère que n'existent que les phénomènes qu'on a pu saisir mathématiquement. Et que les autres, en fait, sont des artefacts, des artifices ou des illusions. En fait, l'idée de Galilée, hein, c'est que décrire le monde dans toute sa complexité et dans la diversité de ses apparences, c'est en fait impossible. Par exemple, le vent, les saisons, les couleurs, les parfums, toutes ces choses qui renvoient à notre subjectivité, à notre façon de les ressentir, de les décrire, sont d'une subtilité telle qu'on ne pourra jamais les décrire scientifiquement. Mais donc, il dit, il faut qu'on limite nos ambitions. On ne va pas décrire toute la nature, on ne va pas décrire toutes les impressions que la nature peut nous donner, on va s'intéresser à l'essence des choses. Ouais. Et on va donc, pour décrire l'essence des choses, utiliser les mathématiques qui permettent d'accéder à des énoncés qui soient à la fois universels et possiblement vrais.
Oui.
Et donc, vous voyez, il limite les ambitions. Il dit, on ne va pas s'occuper de tout. Si vous vous intéressez à la chute des corps, par exemple,
faites
tomber des corps de masses différentes, de formes différentes, d'une certaine hauteur, c'est une complexité effroyable. Il y en a qui vont tomber très vite, d'autres pas vite, d'autres qui vont être très sensibles au vent, d'autres moins, etc. C'est quasiment impossible à décrire par une formule simple.
Mmh.
Et donc, ce que va faire Galilée, c'est imaginer, donc faire une expérience de pensée dans laquelle il va mettre en scène dans son esprit un milieu de pensée qui est le vide. Il essaie d'imaginer ce qui se passerait si les corps tombaient dans le vide.
Oui.
Et il a l'intuition que dans le vide, la loi de la chute des corps serait beaucoup plus simple que dans le monde réel. Et il va écrire la première loi mathématique de la physique.
Oui.
Il va montrer que la vitesse de chute est indépendante de la masse des corps. Ça simplifie beaucoup les choses. Elle est simplement proportionnelle à la durée de la chute.
C'est ça.
Donc une enclume va tomber à la même vitesse qu'une épingle, ce qui est contradictoire à tout ce qu'on pouvait voir à l'époque. Et la vitesse des deux va être proportionnelle à la durée de la chute, c'est-à-dire que la vitesse au bout de 5 secondes sera la 5 fois la vitesse au bout d'une seconde, etc.
D'accord.
Et donc, il a idéalisé le monde pour trouver une loi simple dont l'énoncé est contradictoire avec l'observation qu'on peut faire dans le monde réel.
Mmh.
Et ensuite, tout le jeu, et c'est ça qui fait, à mon avis, la beauté de la physique contemporaine ou moderne, hein, celle qui naît au XVIIe siècle, c'est qu'il faut ensuite expliquer comment une loi qui contredit ce qu'on observe explique quand même ce qu'on observe.
D'accord.
Et en l'occurrence, on dira, y a la gravitation qui fait tomber tous les corps à la même vitesse, quelle que soit leur masse.
Oui.
Et puis il y a d'autres forces, quand on n'est pas dans le vide, qui agissent, la résistance de l'air, etc.
Oui.
Et ce sont ces forces, et seulement elles, qui sont responsables des différences de vitesse de chute que nous observons dans le monde réel.
Oui. Alors, pour conclure cette interview, j'ai choisi une citation de Feynman. « Nous faisons de la physique mathématique, faute de pouvoir faire mieux. » Alors, pour vous, quel est ce mieux ?
C'est-à-dire, on ne peut pas faire mieux. Si les lois physiques n'étaient pas mathématisables, si elles n'avaient pas un statut qui les rend en quelque sorte universelles, elles seraient purement descriptives.
Oui.
Le fait de mathématiser les lois nous permet d'imaginer qu'elles ont toujours été vraies, qu'elles sont vraies en tout point du cosmos. Et ça nous permet, par exemple, de dire, puisque les lois ont toujours été les mêmes, quand on regarde une étoile qui est très lointaine, elle nous envoie sa lumière. Le temps de trajet de la lumière est tel qu'on voit en fait l'étoile telle qu'elle était dans son passé.
Oui.
Et comme les lois dans son passé sont les mêmes qu'aujourd'hui, on peut faire de la physique qui s'étend à l'univers tout entier. Autrement dit, je pense que si on n'avait pas les mathématiques, si les lois étaient exprimées par des phrases, par exemple, on ne pourrait pas en inférer des conséquences logiques. Par exemple, c'est pas en faisant des phrases qu'on peut prévoir, par exemple, que telle ou telle entité physique doit exister. Quoi.
Mm.
Si on regardait, par exemple, la prédiction à partir des équations d'Einstein des trous noirs ou des ondes gravitationnelles, vous voyez que c'est extrêmement technique et comme c'est exprimé par des lois mathématiques avec lesquelles on ne peut pas faire joujou avant monter, ça veut dire qu'il y a une sorte de nécessité. Si les lois sont justes, alors telle et telle chose doivent exister.
Mm.
Ça rend les lois plus facilement testables. On peut vérifier en regardant si ces choses existent, si elles sont vraies ou pas. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut vérifier leur validité. Hein. On parlait de Maxwell tout à l'heure. Maxwell a écrit des équations dont certaines solutions correspondent aux ondes électromagnétiques. Et quelques temps plus tard, un physicien qui s'appelle Hertz démontrer que les ondes électromagnétiques existent bel et bien. Bon. Donc ça, c'est quelque chose d'assez émouvant hein, de voir que des équations comme ça peuvent enrichir la façon dont, avec notre esprit, nous meublons le réel et ensuite faisons en sorte qu'il se manifeste au travers d'expériences spécifiques.
Donc vous répondrez plus à cette citation, on fait de la physique mathématique et c'est déjà bien.
C'est déjà pas mal, ouais. En fait, il faut apprécier ce qu'on est capable de savoir.
Oui.
Avant de dire qu'on ne sait pas tout, commençons par apprécier ce qu'on sait.
D'accord. Bah, merci beaucoup, Étienne Klein, de m'avoir accordé de votre temps sur cette question fascinante. J'invite tous les auditeurs, surtout, j'ai envie de dire, ceux qui n'ont pas forcément aimé les sciences au lycée ou avant, à aller voir votre travail pour s'éduquer aux différentes disciplines et comprendre l'importance de certaines questions et la beauté de la science.
Eh bien, merci pour vos questions et bonne chance à vous.
Merci à vous d'avoir répondu.